Chapitre 39. La pagode. Florence retint son souffle. Puis, presque euphorique, elle corna la page, s'empara d'un stylo et souligna furieusement avant de poursuivre sa lecture. Selon les rumeurs, il fallait s'enfermer à l'intérieur de cette machine infernale, préalablement remplie de 2 tonnes d'eau, pour tenter d'en comprendre le mécanisme. Même après le décès de Houdini, le secret de la pagode chinoise de torture, quel horrible nom, songea-t-elle, n'avait jamais été percé à jour. Elle était protégée par un système complexe, et en forcer l'ouverture aurait risqué de la détruire. Une photo montrait une sorte de grosse boîte en métal et en verre, verrouillée par une multitude de cadenas. Houdini était dedans, enchaîné, immergé dans 2 mètres cubes d'eau et suspendu par les chevilles. Ses pieds nus dépassaient à l'extérieur. Florence se demanda comment on pouvait se sortir d'un truc pareil. Elle apprit plus loin que la pagode était conservée par un collectionneur français du nom de Raffner, acquéreur de nombreuses machines de Houdini. Elle ajouta cette information à ses notes et alla l'inscrire sur le tableau. Elle l'encadra pour marquer son importance. Retour à son bouquin. Donc, le magicien avait su préserver quelques-uns de ses fabuleux secrets, dont un ultime tour hallucinant qui acheva de l'asseoir comme véritable mythe. En 1926, sur son lit de mort, il lâcha son dernier souffle à cause d'une péritonite due au coup répété dans son abdomen, son égo l'avait finalement tué, il confia un message à sa femme. Rosabelle, believe. Un clin d'œil à leur chanson préférée. Il lui promit de lui communiquer cette phrase depuis l'au-delà, au moment où elle s'y attendrait le moins. Un an plus tard, Bess Houdini, toujours sans signe de son défunt mari, proposa $10 000 au médium qui lui rapporterait les 2 mots prononcés par Harry, dont personne alors, hormis elle, n'était au courant. Aucune réponse ne lui donna satisfaction. Le magicien avait-il échoué dans son plus grand défi? Ce fut ce qu'elle crut. Jusqu'à ce jour de janvier 1929, où, gravement malade, Bess Houdini accepta qu'une séance de spiritisme se déroule dans sa chambre d'hôpital. Et le secret du couple sortit de la bouche du devin qui dirigeait l'office. Supercherie, réalité. Difficile à dire d'après l'auteur de la biographie, mais peu importait au final. La magie était dans l'air. Même décédé, Houdini restait plein de mystères. Un frisson parcourut l'échine de Florence. Les spirites, la communication depuis l'au-delà, Houdini, la pagode. Comme l'escapologiste hongrois, l'assassin les défiait avec ses tours impossibles. L'évasion des containers, la mise en scène autour du prénom, la résurrection de Delphine Escrémieux. Se prenait-il pour une sorte de réincarnation de Houdini, un roi de l'illusion qui lui aussi provoquait la police, mais qui jouait avec la vie d'être humain? Ou était-il un magicien raté à la recherche de reconnaissance? Par le meurtre, sa répétition ou son originalité, n'importe qui pouvait devenir célèbre. Jack l'Éventreur, Landru, Charles Manson. Alors pourquoi pas lui? Une voix résonna dans son dos et la fit sursauter. Une lumière dans la nuit au 5e étage? Qui d'autre que toi? Florence porta une main à son cœur et se redressa.
Tu m'as fait peur.
Toi, peur? J'étais plongée dans des histoires de fantômes. Elle serra affectueusement Titi dans ses bras. Son blouson en cuir était glacé. Elle s'écarta quand elle sentit que leur étreinte allait un peu trop loin. Titi avait de la lave dans les yeux. Il avait dû vider quelques verres avant de monter. Elle retourna vers le canapé pour prendre son pull, tandis qu'il jetait un œil aux notes du tableau.
« Ça donne quoi, l'enquête des boeufs-carottes » demanda-t-elle en remettant son vêtement. « Ils vont pas creuser. Ils ont eu ce qu'ils voulaient en m'éjectant. Tu ne peux pas rester chez toi à te morfondre. L'état-major, ce n'est pas l'idéal, mais tu devrais accepter la proposition du taulier. Même si tu t'en sors sans trop de dégâts, ces salauds ne te permettront pas de revenir à la crime. Il faut bien que tu gagnes ta vie, Titi. La crime, c'est ça, ma vie. Presque 15 ans que j'y laisse mes tripes. 15 ans à tout donner pour que des gens comme le taulier et sa femme puissent dormir en paix. Je vais crever derrière un téléphone, tu le sais. Et eux aussi le savent. Si je crève, au moins, ils auront ma mort sur la conscience. » Elle revint vers lui et la grippa par le col. « Ne dis pas ça, je t'interdis, putain !» Titi la grippa à son tour. Il la guida vers l'arrière, la plaqua au mur, et alla trouver ses lèvres. Soudainement. Avec avidité. Florence ne comprit pas. Elle aurait dû résister, lui coller une claque. Mais la chaleur qui se déversa d'un coup dans son ventre l'en empêchait. Déjà, il la dévorait de baisers. Il la souleva de terre pour la porter jusqu'à la banquette sur laquelle ils s'effondrèrent tous les deux. Lui dessus, elle dessous. En ôtant son blouson, il respirait à peine. Et d'un geste un peu trop brusque, il glissa ses mains sous le pull, attrapa le soutien-gorge. Les petits seins fermes. Arrête ! Florence détourna la tête pour échapper au baiser et le repoussa.
Dégage, Titi !
Quoi, tu...
On ne peut pas faire ça.
J'en ai envie et je n'ai rien à perdre, mais toi, t'as une femme, des gosses. Demain soir, tu offriras des cadeaux à tes enfants, bordel. T'as pas le droit de tout bousiller pour une baisse sur un coin de canapé miteux. On vaut mieux que ça, toi comme moi.
Disant cela, elle se rendit compte de la folie de leur comportement. Eux, dans ce bureau, à s'embrasser fougueusement alors que n'importe qui aurait pu entrer, alors qu'il y avait toutes ces photos de pauvres victimes, toute cette souffrance, tout ce mal autour d'eux. Est-ce qu'ils viraient tous dingues ? C'était ça la vie ? Se construire sur un monde en ruine et détruire tout le reste ?
Elle alla vite enfiler ses chaussures. Titi ne bougeait plus, debout, hébété, tel un étranger qui n'était plus à sa place.
Il finit par ramasser son blouson, la chercha en vain du regard. Il lui sembla qu'elle était comme écrasée par la honte. La honte de ce qu'il était devenu. Elle le laissa s'éloigner, cria son prénom lorsqu'il atteignit le seuil de la pièce. Pas Titi, mais Thierry.
Il se figea, ne se retourna pas.
Quoi ?
Ne fais pas de conneries.
Il haussa les épaules. Puis il disparut dans la pénombre et il n'eut plus que le claquement de ses pas dans le couloir, le grincement du vieux bois. Florence enfouit son visage dans ses mains. Et elle pleura.